tous les jours.
Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour et merci d'être au rendez-vous de Radio Foot International le jour d'après. Aïe, 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 quel enchantement et quel séisme sur la pelouse de Santiago Bernabéu hier soir. Les jeunes artistes de l'Ajax d'Amsterdam ont éliminé le grand Real Madrid au terme d'une leçon de football en leur infligeant une très sévère défaite, 4-1. Une démonstration de football, le plaisir du beau jeu enfin récompensé. L'Ajax a mis fin aux 1000 jours de domination du Real, installé sur le sommet de l'Europe depuis 2016. Les champions aux 3 titres sont tombés, vive leur successeur. Les successeurs, peut-être les joueurs de Tottenham qui ont hier éliminé Dortmund après une deuxième victoire face aux supporters du mur jaune et noir. Harry Kane a signé son retour par un but alors que Hugo Lloris gardait fermement ses cages inviolées, top niveau. Successeurs, Tottenham, l'Ajax ou bien le PSG, le Paris Saint-Germain joue ce soir sa qualification en quart de finale. 3 ans que les Parisiens n'ont pas atteint ce stade de la compétition. Ils devraient donc se méfier de Manchester United, d'une équipe revancharde après sa défaite dans son jardin anglais, mais qui arrive avec 2 buts de retard, 9 blessés à l'infirmerie et Paul Pogba suspendu. Il reste quand même du suspense, n'est-ce pas, Eric Ravesandratana?
Bonjour Annie, bonjour à toutes
vous
et à tous. Je tremble pas, mais je me méfie comme les Parisiens nous ont habitués à nous méfier, à ne pas s'enflammer. Donc je suis quand même.
Prudent donc.
Oui.
Naïm Moniol, bonjour.
Salut Annie, salut à tous.
Shérif Guémour, je vous le décris, on n'a pas l'image. Un magnifique ouais. Maillot de l'Ajax Amsterdam. Vous me dites qu'il est ancien, Shérif, c'est ça?
Ouais, ça doit être les années 2000, ça.
Bon, en tout cas.
Bonjour à tous.
Shérif.
Ouais, bonjour à tous.
Vous avez. Éprouver du plaisir, j'imagine, hier soir, vous qui les suivez si régulièrement.
Mais il n'y a pas que moi, c'est tous les gens qui étaient autour.
N'est-ce pas ?
J'ai vu le match aller dans un café, j'ai vu le match retour dans un autre café. Tout le monde était content, tout le monde était joyeux. C'est surtout ça, on aime le foot pour ces émotions-là.
Exactement. Eric Mamrud, bonjour.
Bonjour Annie, bonjour tout le monde.
Todoyen. Il n'est pas espagnol, je vous le dis. Ni madridiste. Ah bon ? Olivier Pont nous rejoindra tout à l'heure aussi pour parler du Paris Saint-Germain. Radio Foot, c'est parti. Mean a thing if it ain't got that swing. Alors on parle pas hollandais, on parle pas flamand, on parle pas cette langue des Pays-Bas, mais on comprend dans le commentaire de nos confrères la joie, la surprise aussi pour ce match qu'on peut dire inoubliable pour les amoureux du football. Merci à ton envie d'ailleurs de dire aux acteurs de ce 8e de finale de Ligue des Champions. La jeunesse insolente de l'Ajax Amsterdam a porté l'estocade à la génération dorée du Real Madrid, ces joueurs qui depuis 3 ans remportaient la Ligue des Champions avec une certaine aisance et des atouts que les Merengues n'avaient plus cette fois-ci. Et bien sûr, on pense à Cristiano Ronaldo et à Zidane. 4-1, donc un score sans appel, un spectacle presque parfait, vous diriez ça, Shérif?
Ah, pour le scénario, oui, parce qu'il faut... Il y a tout, il y a la chance, il y a quand même le Real qui tire. On va rendre hommage au Real quand même parce que bon, c'est un grand
non.
club. Faut rester
non.
grand dans la. Hein
non.
D'accord. Et c'est voilà le scénario. Il y avait le scénario rêvé, c'est-à-dire marquer très tôt parce que il y avait un un handicap à remonter rapidement. Donc au niveau du scénario, évidemment, il y a un gardien en état de grâce. Le Real rate des buts, il tire sur les barres, sur les poteaux. Donc on se dit, ça s'engage très bien. Les buts sont d'une beauté stupéfiante. Il y a des mouvements, il y a un coup franc direct.
Qui surprend tout le monde.
Oui, non, mais c'est puis c'est le Real dans son maillot blanc à Bernabéu, c'est l'écrin, c'est le tenant. Et puis voilà, il y a une bande de gamins qu'on n'attendait plus. Alors c'est marrant parce que à la même heure, il y a une équipe qui aurait pu être le nouvel Ajax, c'est Dortmund. Il y a quelques années, avec les Kagawa, Götze, tous ces Schmelzer, tous ces joueurs-là et tout. Moi, à l'époque, j'étais un peu jaloux. Je me disais, ah oh là là, c'est la vraie place, ce serait que l'Ajax revienne. Et en fait, c'est ce qu'ils ont fait hier, quoi. Ouais. En revenant en huitième de finale.
Eric, vous, en tant qu'ancien joueur, quand vous voyez un match comme ça, comment vous le vivez, comment vous le ressentez ?
Bah moi, je me suis régalé, franchement. Pourtant, j'aime bien le Real au départ, et j'avoue que cette équipe de l'Ajax, je l'avais déjà vue contre le Bayern, et elle aurait dû déjà gagner 4-1 contre le Bayern. Franchement, elle avait fait 1-1
dans les phases de poule.
Ouais, ils avaient offensivement, ils avaient raté leur match. Ils avaient 4 ou 5 face à face avec Neuer, et ils n'avaient pas marqué, et donc ils avaient fait 1-1. Je me dis, mais c'est vraiment du gâchis. Et là, en fait, hier, ils ont fait le match parfait avec la finition et avec le jeu qu'ils ont habituellement. Donc là, ils nous ont régalé et c'est la victoire d'une équipe, en fait. C'est ça qui est super, parce que c'est la victoire d'une équipe. C'est pas juste c'est Tadic qui a fait la différence. Alors il a fait la différence, mais c'est l'ensemble de l'équipe qui a battu le Real. C'est ça qui est beau, en fait, dans cet exploit.
Naïm, c'est vrai que le plaisir qu'on ressentait, c'est cette générosité, peut-être, sur le terrain, de nous offrir un spectacle magnifique. Bah, au-delà du, alors évidemment, le résultat, elle est avec hier soir, mais je veux dire, pourquoi on avait imaginé peut-être aussi ça hier? On en a beaucoup parlé dans Radio Foot, c'est parce que le match allait, déjà, l'Ajax nous avait impressionné.
Le match allait, l'Ajax nous impressionne depuis le début de la saison, en fait, en Coupe d'Europe, parce qu'il y a eu la double confrontation contre le Bayern, Eric l'a rappelé, qui était de très bonne facture. Le fait qu'ils sortent des poules, déjà, en soi, constitue un petit exploit sur le passé récent. Qu'au match aller, on avait vu du jeu, qu'il y a des individualités qui sont très fortes. De Jong, De Ligt, Ziyech, Tadic, Tagliafico, pour ne citer que. Que le score du match aller et le scénario du match aller, moi j'avais dit à ce moment-là, la meilleure équipe a perdu. Donc hier, la justice a été faite. Très bien, donc voilà pourquoi. Après, la manière dont ils ont joué, en termes de jeu, en termes d'intensité, en termes de spectacle, en termes de combativité, ce qu'ils ont montré, parce qu'ils avaient absolument plus rien à perdre, et que quand on n'a plus rien à perdre, là où beaucoup de clubs se mettent à 11 derrière en disant faut pas qu'on prenne une trempe, bah oui, ils se sont mis à jouer. On a revu du football des années 90.
Et même à 3-0, ils jouaient, quoi, je veux dire.
Et même à 3-0, et même encore à 4-1, Ziyech en rate une énorme qui aurait pu faire encore plus mal. Donc voilà. Ah ouais. Bravo à eux, on s'est régalé. Moi, ça m'a rappelé ma petite enfance et les grands matchs de Coupe d'Europe que je regardais gamin. Donc voilà, merci l'Ajax.
L'Ajax de retour, hein, premier quart de finale de Ligue des Champions depuis 2003, et même pour voir le club néerlandais passer un tour de Ligue des Champions dans une phase à élimination directe, eh bien ça datait de 1997.
Alors, hommage.
En 2003, t'avais qui dans la génération, tu te rappelles?
Moi, je peux citer celle de 95, la dernière équipe qui a gagné la Ligue des Champions.
2003, la génération de l'Ajax de 2003 qui fait un quart de finale. Zlatan, Van der Vaart, Zlatan, Schneider, oui. Litmanen, Richard Witschge, Steven Pienaar le Sud-Africain, Stekelenburg, Christian Lobond, Christian Chivu, que des mecs qui ont réussi derrière. Donc quand tu vois les gars,
voilà,
qui
je m'inquiète pas pour la pour cette génération.
Quand tu vois ceux d'hier soir, tu te dis qu'il y a une belle carrière à faire.
Ils vont surtout se faire dépouiller les pauvres, parce que là, ah bah oui. Ajax, malheureusement.
Je me souviens qu'on l'avait évoqué l'autre jour avec vous, Chérif, en se disant I have a dream. Est-ce qu'on pourrait imaginer que l'année prochaine, ils soient là encore, qu'ils dominent tout?
Non.
Déjà Frankie de Jong.
Faut peut-être qu'il gagne la Ligue des Champions.
Non, mais je vais quand même citer l'équipe de 95, parce qu'elle a la gueule aussi. Celle qui a gagné la Ligue des Champions, c'était la quatrième, puisque l'Ajax, dans sa grande époque, on avait gagné 3 entre 71 et 73 avec Johan Cruyff. Et en 95, sous la direction de Louis van Gaal, il y avait Rijkaard, Seedorf, Davids, Litmanen, déjà, les frères de Boer, Van der Sar, ouais. Kluivert sur le blanc, qui était tout jeune.
Le Nigérian Yekini, il y avait...
Canou qui était sur le banc.
En 96, Canou.
C'est lors de la finale.
Ouais, en 96, en 95, c'est Yekini qui joue. Ouais. Et Kluivert est sur le banc.
Cette génération-là, elle avait 22 ans. Quand on enlevait Rijkaard et Blind, elle avait 22 ans déjà, cette génération. Mm-hmm. Je crois que c'est l'équipe la plus jeune qui a gagné.
La grande force de cet Ajax, c'est que finalement, ils ont toujours formé, toujours une politique de jeunes qui n'a pas tout le temps marché, parce que là, cette saison, ils ont une génération extraordinaire. Ouais. Mais ils ont toujours formé, et pour un pays aussi petit que les Pays-Bas, parce qu'en termes de géographie, c'est vraiment un tout petit pays, être chaque année, chaque génération, être en mesure de fournir 5, 10, 15 joueurs qui vont terminer dans les grands clubs, c'est absolument prodigieux.
Eric?
Ouais, mais c'est pas, c'est, y a pas de hasard derrière ça. En fait, c'est un travail des équipes de jeunes, déjà. C'est-à-dire que tout le monde joue de la même façon, et on grandit avec le club, on grandit avec les équipes de jeunes, et on arrive en haut, en ayant déjà fait toutes les gammes. Et donc après c'est plus facile de s'exprimer comme ça quand on a déjà travaillé tout ça depuis longtemps.
Bah oui, on le voyait
alors, en
hier.
Plus il y a le talent bien sûr, mais ouais. Je veux dire voilà, il y a
on
y a aussi
hier,
ça,
cette entente, ça cette aide, complicité. Hein. Justement, Chérif, sur cette école, alors puisqu'on est là-dessus, on parle beaucoup par exemple ces derniers temps, on parlait de la Masia et de Barcelone qui a cette philosophie depuis les tout petits quand ils rentrent à la Masia et finalement jusqu'au grand. Là, est-ce que ça revient finalement auprès de l'Ajax, est-ce qu'on se recentre sur les fondamentaux?
Alors oui et non. Il y a des joueurs qui sont formés au club, mais ils sont pas tous formés au club.
Oui,
ouais,
bien sûr.
Donc, ils ne sont pas tous des gamins en plus.
Mais justement, l'intelligence de l'Ajax, c'est aussi ça. C'est déjà, ils ont fait venir un entraîneur qui est pas estampillé Ajax. Justement, ils savent ouvrir, ils savent aérer un peu la maison Ajax quand il le faut, avec les joueurs. C'est-à-dire faire venir Tadić qui était en Angleterre, faire venir Ziyech qui est pas de l'Ajax. Il y a des joueurs qui n'ont pas été formés à l'Ajax.
Larchoneux, Tagliafico.
De Jong, voilà, il vient de Willem II, il me semble. Donc, on fait errer la maison, mais évidemment, on reste sur les fondamentaux, c'est-à-dire un style de jeu, un état d'esprit, toujours conquérant, on va toujours de l'avant. Et les fondamentaux, c'est très très important, parce que les joueurs qui arrivent, ils doivent se fondre dans ce collectif-là. Et le génie de l'Ajax, c'est justement le sens du collectif, mais c'est qui ça. Permet aux individualités Exactement. De s'exprimer. C'est Exactement. Pas non plus une machine hermétique.
À un moment donné, il y a pas de mystère. Un mec comme Tadić, qui était bon avec Southampton, qui avait des pistes en Angleterre, s'il revient aux Pays-Bas, un mec comme Ziyech, qui est pisté depuis 2-3 ans par des très bons clubs en Espagne, s'il reste aux Pays-Bas, c'est-à-dire qu'ils doivent trouver quelque chose à l'Ajax qui leur permet permet de progresser plus qu'ailleurs, là où ils gagneraient beaucoup plus d'argent et où ils joueraient beaucoup plus de quarts de finale.
Et là, ils sont heureux, là. Hein.
Ouais, on le voyait. Hein, ouais. Alors justement, hier, on avait beaucoup parlé de Hakim Ziyech. Christophe Jousset nous avait tracé son portrait de cet international marocain, mais quand même né aux Pays-Bas et dans ce moule de l'Ajax Amsterdam. Aujourd'hui, Eric Mamrut, on a plutôt choisi de s'arrêter sur celui qui a été finalement le joueur du match hier et qu'on a tous vu. C'est ce Serbe Dusan Tadić.
Bah, tout simplement parce que si on ouvre la page de l'équipe aujourd'hui, on voit qu'il a reçu la note de 10. Et c'est pas si fréquent, c'est le 9e footballeur dans l'histoire de ce journal à recevoir la note maximum. Avant lui, il y a eu Neymar, Lionel Messi, Oleg Salenko en 94, Lewandowski, Franck Sauzé, enfin je vais pas tous les citer, mais déjà ça situe le bonhomme. Alors bon, son œuvre hier, pour ceux qui l'auraient pas vu, c'est 2 passes décisives et un but superbe. Ça, au-delà de tout ce qu'il a fait, au-delà de ça de manière technique, déjà sur le premier but, il fait des gestes techniques, une roulette incroyable. Alors il faut savoir que son idole c'était un certain Zinedine Zidane.
Ah bah ça joue.
On l'a vu. Donc
il s'en est bien inspiré.
Donc la roulette traînait sur le terrain et en fait il l'a récupéré simplement parce que Zizou l'avait
oublié. Voilà, c'était à Madrid.
Un petit clin d'œil.
Donc le gars il a que 30 ans effectivement, on peut s'étonner. Tiens, d'où il sort celui-là 30 ans.
C'est marrant que vous dites ça.
Pour les non spécialistes vraiment qui suivent véritablement, il n'était pas extraordinairement connu.
Joueur. Que 30 ans.
J'ai dit que 30 ans.
Ouais, j'ai dit que 30 ans.
Bien, c'est pour ça.
Dans cette équipe, on pourrait dire, il a déjà 30 ans. Et c'est
oui,
ça. Et Chérif tout à l'heure disait qu'ils sont pas tous formés au club, mais ils sont pas tous jeunes non plus. Sean qui a marqué le coup franc, il a 32 ans. Tagliafico, il en a 26.
Il y a Blin qui a 28.
Mais c'est pour ça qu'ils se retrouvent aussi en quart de finale. Parce qu'avant, c'était beaucoup trop jeune. La génération d'avant était beaucoup trop jeune.
Et c'est là où ils ont très bien travaillé parce que ils ont été chercher des joueurs pour encadrer les petits jeunes, qu'ils soient formés ou non au club. Ils font une finale de Ligue Europa.
Très jeune, parce que même très jeune. Il a 100 matchs avec l'Ajax.
Vous savez, ça après, c'est culturel. Aux Pays-Bas, on regarde pas si t'as 17, 18 ans. On n'est pas comme en France. Alors en France, ça se libère un peu, mais on n'est pas comme en France.
Mais ça
où
se libère
on se
dit... parce que t'as Mbappé, sinon ça se libère pas.
Ouais, si, un petit peu quand même déjà. De 18, 19 ans, t'en as un peu plus maintenant. Plus qu'à ton époque, en tout cas.
Ouais, non, c'est sûr, mais je veux dire, bon.
Mais là-bas, c'est comme en Allemagne. On réfléchit pas si t'as 17, 18, 19 ans. Tu joues en championnat. Si t'es suffisamment bon pour une équipe nationale, tu y vas. Culturellement, ils sont très décomplexés là-bas.
Eric.
Ce Dusan Tadic, donc, qui surgit tout d'un coup, là, que découvrent les profanes, entre guillemets, il est quand même deuxième meilleur buteur de cette Ligue des Champions cette saison avec 6 buts, ex aequo avec un certain Lionel Messi. Ouais, on le connaît, lui. Et il est impliqué dans 9 buts de l'Ajax en C1 cette saison, donc, puisqu'il faut ajouter ses 3 passes décisives. Mm-hmm. En clair, c'est le meilleur en Ligue des Champions au niveau des statistiques cette saison.
Et comme peut-être ça, même ça, plus c'est... si on compte les matchs de qualification.
Ah voilà, bon, on va pas se compliquer la tâche, mais déjà c'est pas mal, parce qu'il y a tellement de chiffres là, Schmipper. On va refaire un petit peu la biographie. Vous avez dit qu'il avait fait un passage à Southampton en Angleterre. Effectivement, avant il avait démarré chez lui en Serbie, hein, à Novi Sad. 2010, là il prend la direction des Pays-Bas, il passe à Groningue, à Twente, et là en 2014, il part au Southampton. On se dit il va exploser, il passe 4 années au Southampton. En fait, il y a des hauts et des bas, et donc ce qui l'amène en fait à revenir en 2018 à l'Ajax Amsterdam, tout en étant international, cadre avec la Serbie depuis 2008, 61 sélections, 14 buts, et puis effectivement, depuis cette saison notamment, 26 buts, 15 passes décisives, toutes compétitions confondues, il éclate. Est-ce qu'il me reste encore des chiffres? Enfin, le gars, oui, c'est vrai, effectivement, hier, chapeau.
Et on va l'écouter, Susan Tadic, parce que hier soir, évidemment, eh bien, à l'issue du match, il reconnaissait quand même que il y a un plaisir réel sur le terrain.
Nous faisons une super saison et c'était une soirée spéciale. Cette équipe rend tous les supporters de l'Ajax très fiers. Il faut rester humble et continuer à jouer comme ça en équipe, en se battant pour les autres, et d'autres belles soirées comme ça arriveront.
Il y prend du plaisir et il s'est fondu donc dans cette équipe avec facilité, on va dire, Shérif.
Oui, mais je reviens là-dessus. C'est l'Ajax, c'est un moule. On doit se fondre là-dedans, mais il y a une latitude pour les solistes, pour les joueurs talentueux que sont Ziyech et Tadic, de prendre des responsabilités, de dribbler.
Le Brésilien Neres aussi.
À un moment donné, il n'y a pas de mystère. Si Dolberg et Huntelaar sont sur le banc, c'est que Tadic est très très fort. Alors ok, il a déjà 30 ans. C'est vrai que dans le football moderne, font penser comme ça. Il a que déjà 30 ans. Mais ce joueur-là, peut l'année prochaine, il fait partie des 4-5 joueurs dans l'équipe, dans le 11 de départ, qui peut prétendre à être transféré dans un club de très grand niveau.
Il a acheté 13 millions, je crois. Hein, donc
Le truc, c'est que moi, je l'ai découvert au début des années 2010. Il jouait à Groningue. Alors, il y a deux joueurs qui m'avaient attiré mon attention. À Groningue, c'était évidemment Virgil van Dijk. Et il y avait Tadic, ensuite, est passé à Twente. Et je me rappelle, on discutait avec des collègues et on se disait, mais c'est incroyable que la Ligue 1 rate des joueurs comme ça. Mais surtout Tadic.
C'est qu'il les intéresse pas en fait.
Ah oui, alors voilà.
Ah non, mais alors, c'est sûr. Non, mais c'est qu'en fait, non, ces joueurs ne sont pas intéressants.
Je pense qu'il faut déjà les superviser.
Est-ce qu'ils vont superviser ce championnat? On a un confrère à nous qui a frayé avec des recruteurs. Il a été proposé à des clubs français. Et je crois qu'à un moment, c'était du 300 000 euros. Tu vois ce que je veux dire?
Donc, il les a pas intéressés.
Il ne les intéressait pas.
Alors, en fait, c'est ça le problème, c'est que ces joueurs-là n'intéressent pas. Parce que quand t'as à Toulouse, à Rennes ou dans d'autres clubs, quand t'as des filières de l'Est, là où tu vas chercher des joueurs, il y a 15 langues étrangères sur le terrain, tu peux aller chercher un mec aux Pays-Bas. Le problème, c'est que lui, il intéresse pas, il sait jouer au foot. C'est pas un type qui joue derrière et qui met des tampons à tout le monde.
On l'a raté.
En tout cas, Eric, c'est vrai qu'on a vu cette équipe. On dit les jeunes artistes. C'est vrai. On parle de jeunes comme De Jong qui a 19 ans, De Ligt qui a 19 ans. Et puis à côté de ça, il y a un peu des très très jeunes et puis des presque plus vieux.
On en parlait, Naïm, d'Ale Blind et puis les anciens.
Bah, c'est Fico, Sean.
Voilà la magie de cette équipe qui, curieusement, ne gagne pas le titre aux Pays-Bas depuis 4 ans. Finissent toujours derrière le PSV Eindhoven, le Feyenoord. Comme quoi, ça serait une équipe de coupe, donc plutôt qu'une équipe régulière.
Ils jouent pas comme ça tous les dimanches.
Non, justement, ils ont des accidents et ils sont assez coutumiers du fait. Là, ils ont pris 6-2 contre le Feyenoord, c'était le tournant. Là, ils sont deuxième, ils sont à 5 points avec un match de retard face au PSV Eindhoven.
PSV joue pas de Coupe d'Europe, attention.
Ouais, donc ça va être compliqué. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, rappelez-vous, on a découvert une génération de l'Ajax qui avait joué contre Paris, qui nous avait déjà émerdé. Mm-hmm. Ça, c'est a 5-6 ans.
3-4 ans, ouais.
La génération qui a fait la finale contre Manchester United, c'était déjà plus la même. Et là, c'est encore une autre génération. Donc, on a
c'était
3 générations.
Hein,
voilà.
Ouais.
C'est, on a pratiquement 3 générations en, allez, 6-7 ans. Donc, au niveau de la continuité, c'est pas possible. Rappelez-vous, il y a 5-6 ans, ils avaient déjà des Vanderville qui sont pas restés.
Un petit mot avant qu'on parle des champions déçus.
Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est dans la continuité du football hollandais, puisque nous, on a pris une rouste, on peut dire une rouste. J'ai une rouste parce que c'est un peu exagéré, mais quand même, on a pris une petite leçon, quand même, la France contre la Hollande.
Et,
du coup, la continuité contre les Espagnols, en Ligue des Champions, on voit que l'Ajax, alors même s'il y a des étrangers, bien sûr, mais comme
vous
au Real.
Vous savez que dans des temps anciens, historiques, il y avait des liens entre les Pays-Bas et l'Espagne, n'est-ce pas? Ils avaient même le même roi, alors. Le football aussi, dans les gènes, n'est-ce pas?
C'était Cruyff.
En tout cas, pour le Real, eh bien, ça a été une soirée absolument cauchemardesque. Et on peut se dire qu'à la mi-temps, on avait l'impression que tout allait par deux contre le Real. C'était 2 buts encaissés pour eux, deux poteaux. Il y avait aussi 2 blessés en 30 minutes, parce que ça a beaucoup joué. D'abord Lucas Vázquez et puis Carvajal. Vinicius, et puis une deuxième mi-temps désespérante. Et si je dis Daniel Carvajal, c'est parce que on va l'écouter à la fin du match. Prenez pas de gants pour évoquer la déroute.
Je n'ai jamais eu cette sensation, ce mal-être. Je ne sais pas comment l'expliquer. En une semaine, on a tout perdu. L'Ajax a mieux joué et mérité de se qualifier. C'était difficile de jouer ce match après 2 défaites, mais on voulait vraiment se qualifier. Mais ce n'est pas la fin d'un cycle, on a encore une marge de progression. Nous devons prendre nos responsabilités et ne pas se cacher, même s'il est vrai qu'on fait vraiment une saison de merde.
Alors, saison de... une semaine, ça se comprend bien même en espagnol, une semaine blanche donc, évidemment, hein, pour le Real. En une seule semaine, il vient de nous le dire, tout a été perdu, la Coupe du Roi, le championnat, pratiquement perdu, peut-être qu'il leur resterait ça et encore, et puis surtout, éliminé de la Ligue des Champions. Et on va tout de suite poser des questions à Pierre Chaperon, qui hier soir avait la chance d'être au bord de cette pelouse. Bonjour Pierre.
Oui, la chance. Bonjour à tous.
Ah oui, alors si on est madrilène, peut-être pas, mais en tout cas, la chance de voir de plus
près. Plaisir.
Voilà, un tel spectacle, Pierre. Racontez-nous, qu'est-ce qui se passait dans le stade au fil des minutes? Parce que nous, on avait des gros plans sur les joueurs, et on voyait bien qu'ils en perdaient leur football et leur combativité. Mais dans les tribunes, est-ce qu'on s'émerveillait finalement quand même du spectacle qu'on voyait, ou est-ce qu'on était un peu en colère?
Un peu en colère. De toute façon, ça a été une ambiance spéciale tout au long de la soirée. D'habitude, il y a un peu de tension positive à Bernabéu avant ce genre de match. Là, il n'y avait pas d'ambiance. Et puis, au fur et à mesure des minutes, quand le premier but a été marqué, quand le deuxième a été marqué, on a vu vraiment les supporters madrilènes se poser des questions, commencer à être dans l'expectative. Commencer à se dire non mais on va pas quand même se faire éliminer par l'Ajax après avoir gagné à l'aller.
C'est gamin.
Même nous les journalistes en zone de presse dans la tribune de presse, on commençait à se regarder, on commençait à se dire mais l'incroyable est en train d'arriver après cette semaine pourrie pour le Real avec une élimination en Coupe du Roi et l'élimination quasi faite en Ligue des Champions.
Deux classicos perdus.
Oui, exactement. Mmh. Et puis surtout la fin des illusions pour partout. On était en train de se demander, c'est en train d'arriver et nous sommes le 5 mars et la saison est quasiment terminée.
Elle est terminée, Pierre.
Ah oui.
J'essaye
un peu de pondérer, mais elle est totalement terminée.
En Ligue des Champions.
Heureusement qu'ils vont se qualifier pour la Ligue des Champions, chérif.
Attendez, c'est leur grosse crainte. C'est leur grosse crainte.
Ils ont raison de se poser la question parce que tu sais pas faire encore.
Le niveau de jeu affiché depuis quelques temps, parce que attention, il n'y a pas que les trois défaites là en une semaine. Il y a
quatre défaites consécutives à domicile.
Gérone.
Voilà, exactement. Il y a un niveau de jeu qui est du niveau de la mer. Il y a quand même des joueurs qui sont en dessous de leur niveau et qui maintenant le reconnaissent. C'est la guerre. Enfin, c'est pas la guerre. C'est beaucoup de questions dans le vestiaire.
C'est l'état d'urgence.
C'est oui, c'est l'état d'urgence. Il y a eu une réunion hier soir. Il y a eu une réunion hier soir jusqu'à 1h15 du matin avec le président pour voir comment on va gérer ces 12 derniers matchs à jouer. Mais pour le Real va mal ce matin et cet après-midi.
Bah d'ailleurs, écoutons-le, les supporters, parce qu'ils étaient aux portes de Bernabéu et eux non plus ne prenaient pas de gants lorsqu'ils hurlaient autour du stade. Florentino démission, hein, disait-il, et puis ils en appellent à José Mourinho. Bon, ça sera notre chapitre, on va pas traiter tout de suite.
Ça n'a pas duré plus souvent quand même, ça.
Eric,
juste pour dire que le mal, combien le mal est profond, c'est que cette année, le Real Madrid a perdu 14 matchs, toutes compétitions confondues, soit autant que lors des deux dernières saisons cumulées.
Et de toute façon, de toutes les équipes engagées en Ligue des Champions là sur les huitièmes de finale, il n'y a que Schalke 04 qui a plus perdu que le Real cette saison.
Ah, il y a aussi Pierre, autre petite question, Pierre.
Oui.
Oui, pardon.
Non, sur les Florentino démissions, oui. Juste pondérer les propos. C'est quelque chose qu'on entend beaucoup depuis le début de la saison. Oui. Les supporters lui en veulent beaucoup dans sa gestion du club et surtout dans la gestion du double départ de Zinedine Zidane et de Cristiano Ronaldo. C'est pas quelque chose qui est apparu hier soir. C'est quelque chose qu'on a entendu après la destitution de Lopetegui, par exemple.
Et Pierre, une autre chose. La presse, aujourd'hui, est-ce qu'elle se déchaîne? Est-ce qu'elle tire sur l'ambulance ou est-ce qu'elle a une petite compréhension, voire le respect?
Ça se partage entre un faire-part de décès et la recherche de coupables. Le faire-part de décès, c'est celui de Marca, premier quotidien espagnol, qui titre CJ, une équipe qui a écrit l'histoire avec une photo d'un Bernabéu vide, avec le score bien affiché. On peut lire également une fin humiliante pour un cycle inégalable. C'est la fin d'un cycle, clairement, pour la presse espagnole. La presse catalane, en plus, en profite bien.
Ils mettent le dernier clou.
Oui, voilà, exactement. Et puis surtout, derrière, il y a pour la presse, les quotidiens de Barcelone, c'est aussi l'occasion d'adresser une petite pique à leurs confrères madrilènes qui n'ont cessé, au fil des défaites du Barça, de dire que c'était la fin du cycle du Barça. Et puis après, quand on écoute la radio, quand on regarde la radio, on est également dans la recherche de coupables à ce fiasco, de cette chute de la Maison Blanche. Sur Internet, beaucoup de sites y vont de leurs sondages pour connaître l'opinion des lecteurs. Est-ce que c'est le fautif? Est-ce que ce sont les deux entraîneurs de la saison? Est-ce que c'est le président? Ce sont les joueurs? Il y a beaucoup de questions. On essaye de comprendre aujourd'hui en Espagne.
Oui, évidemment, nous, ça nous rappelle aussi, d'autres comme ça, rois qui tombent de leur siège. Et on pense à l'Espagne, à la Coupe du Monde en 2014, bien sûr, les champions du monde en titre.
Mais il y a beaucoup de similitudes entre les
deux. Et puis on pense aussi aux Allemands, les Allemands qui. 2018 en Russie.
Champion 2014.
Et comme un malheur n'arrive jamais seul, le diagnostic sur Vinicius, c'est communiqué du Real Madrid qui a diagnostiqué une rupture des ligaments de l'articulation tibio-fibulaire la jambe droite.
Voilà. deux mois d'arrêt.
On n'avait pas véritablement une idée de.
Environ.
On revoit les images.
C'est ce que disent les médias. Les médias disent qu'il revient pour la fin de saison. Il reviendra pour les deux ou trois derniers matchs.
Ouais. On a l'impression qu'ils ont tiré sur la corde aussi, peut-être ces derniers temps. De désespoir.
C'est un gamin qui a été très sollicité d'un coup.
Exactement.
Puisque Isco et Bale et Asensio ne sont pas au niveau. Et ne serait-ce que le cas Vinicius est très significatif du Real. Comment un club de la dimension du Real peut confier les clés du jeu à un gamin de 18 ans qui est en Europe depuis 6 mois. Rien que ça veut tout dire.
On y reviendra, Pierre, et on y reviendra sans doute avec vous. Merci beaucoup pour toutes vos informations. À très bientôt. Et justement, on se demande un peu quelles sont les conséquences, qu'est-ce qui va pouvoir se passer au Real Madrid. Eh bien, on va poser la question à un connaisseur qui a le cœur un peu madridiste, peut-être aussi. Juan José Dorado, bonjour.
Buenas tardes.
La Marca a un faire-part de décès en une. Est-ce que vous êtes en deuil, vous, Juan?
Bah aujourd'hui, tous les madridistes sont en deuil, forcément, mais pas uniquement parce que le Madrid a été tué hier soir, mais parce qu'il a été humilié. Il est beau de perdre un duel et perdre, mais être humilié comme on l'a été, c'est très très difficile pour les supporters du Real, mais comme pour tous ceux qui aiment le beau football, puisque le Real n'est plus cette équipe qu'on aimait depuis quelques années.
Alors vous êtes un amateur de ce club de Madrid, mais vous êtes aussi un confrère, hein. Vous êtes journaliste, oui, notamment pour la télé espagnole, et vous êtes déjà venu dans le studio de Radio Foot. Juan Dorado, qu'est-ce que finalement on peut imaginer maintenant? Alors tout de suite, tout à l'heure Naïm Moniol disait la saison est foutue, ça veut dire quand même, mais ils doivent se battre au moins pour une de ces quatre places de Ligue des Champions, n'est-ce pas?
Effectivement, aujourd'hui, on sait parfaitement que le Real n'aura gagné aucun titre cette année, hormis, hein, faut pas l'oublier non plus, le mondial de club qu'ils ont remporté fin décembre, début janvier. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, tout ce qui leur reste, c'est, pour sauver cette saison, c'est gagner l'une des trois places derrière le Barça, puisqu'il est certain qu'à 12 points du Barça, la Liga est aussi perdue. Mais puis, le Real fera ce qu'il se fait faire de mieux avec Florentino Pérez, que ce soit lors de son premier passage en tant que président, que lors de ce 12e passage, c'est-à-dire renverser tout et faire venir un grand entraîneur. Il va falloir décider qui est très rapidement pour qu'il puisse préparer la saison 2019-2020 et surtout aller chercher ces joueurs emblématiques, ces joueurs qui vont marquer les années futures, les années à venir pour le Real Madrid et pour le football mondial. On sait que Florentino Pérez l'a toujours fait. C'était avec Zidane, c'était avec Ronaldo. Forcément, aujourd'hui, du côté du Real, on cherche l'entraîneur. Il y a déjà un certain nombre de messieurs qui sont sur le point de mire du Real Madrid, mais ils cherchent aussi un grand nom du football. Et forcément, les regards se tournent vers Paris et Neymar et Mbappé. Pourquoi pas l'un des deux à Madrid, Florentino Pérez, pour qui on demande la démission du côté d'un certain nombre de supporters, a besoin de sortir à son chéquier. Et quand ça va mal au Madrid, on sait que Florentino Pérez, qui est avant tout un entrepreneur, sait sortir son chéquier.
Chérif, vous avez une question?
Non, c'est plutôt un paramètre important, parce que là, il va falloir viser les trois premières places, mais il faut rappeler quand même que la force du Real Madrid, c'était qu'en deuxième partie de saison, à partir de février, ils étaient absolument intouchables, parce qu'ils avaient un physique absolument extraordinaire. Là, quand on voit l'état de l'effectif de l'équipe type, ça vole pas haut, et quand on regarde les deux blessés, Vasquez et oui, Vinicius, c'est eux qui apportaient vraiment de la vitesse, qui faisait bouger un peu les lignes, entre guillemets. Donc là, ils sont partis. Bon, a priori, c'est bon parce qu'ils ont suffisamment d'avance, mais il va falloir quand même cravacher pour gagner le podium.
Oui, et puis, sur ce sujet, vous savez que à un moment donné, quand Lopetegui a été débarqué, on a mis Solari, mais à un moment donné, on parlait d'un tandem à la tête du Real Madrid, c'était Solari et Antonio Pintus, le préparateur physique qui est arrivé à Madrid de la main de Zinedine Zidane. Aujourd'hui, forcément, on n'en parle pas de lui, mais beaucoup des gens commencent à regarder du côté d'Antonio Pintus pour savoir pourquoi effectivement le Real est arrivé dans un état de méforme pas normal,
jamais
une équipe qui prétendait gagner effectivement la Champions League. Vous avez fait référence tout à l'heure, la victoire, la défaite d'hier humiliante n'est en fait que la somme des plusieurs défaites avant, notamment celle des Girondins et les deux défaites face à Barcelone au Santiago Bernabéu. Et donc effectivement, ce Real qu'on voit qui manque d'énergie. Donc il n'y a pas uniquement que l'entraîneur qui est sur la sellette, mais aussi une partie du staff, et notamment Antonio Pintus, encore une fois, qui était arrivé à Madrid du côté des Zinedine Zidane.
Naïm. Alors moi, dans le prolongement de ce que vous dites, est-ce que Florentino Pérez également est en danger pour le renouvellement de son mandat, parce qu'il y a le dossier Ronaldo, le dossier Zidane, les résultats, l'arrivée et le départ de Lopetegui qui ont plombé le foot espagnol au mondial, le maintien de Gareth Bale dans l'effectif alors que Zidane voulait le dégager, on voit ce que ça donne aujourd'hui. Est-ce que Florentino Pérez aujourd'hui, moi j'estime qu'avec hier, il a mis la tête sur le bio, est-ce que c'est votre avis en Espagne?
Alors il faut faire attention à ce qu'on dit à ce niveau-là, parce que c'est vrai que Florentino Pérez est élu par les socios du Real Madrid, mais ce n'est qu'une partie du socios qui veulent sa tête. Et il faut savoir aussi que les statuts du Real Madrid ont changé il y a quelques années de la main de Florentino Pérez. Aujourd'hui, être président ou candidat à président du Real Madrid, c'est extrêmement compliqué, parce que Florentino Pérez s'en est chargé, c'est-à-dire aujourd'hui, vous devez avaler avec vos deniers propres votre candidature à la tête du Real Madrid. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a très peu de personnes capables économiquement de pouvoir prétendre à la tête du Real Madrid. Il y a la partie socios, forcément, mais il y a une partie statutaire qui fait que remplacer Florentino Pérez aujourd'hui serait très coûteux pour celui qui serait candidat, parce qu'encore une fois, il doit avaler une grosse partie de son budget avec ses deniers propres, ce qui n'est pas du tout évident aujourd'hui du côté de Madrid. Mais c'est vrai que le regard se porte vers Florentino Pérez. Encore une fois, c'est un entrepreneur, c'est Florentino Pérez qui disait il y a quelques années, je préfère payer pour faire venir des joueurs qu'augmenter les salaires de mes stars. Ça, c'est Florentino Pérez. Donc aujourd'hui, il est prêt à sortir son chéquier, faire venir un grand entraîneur, faire venir un ou deux grands joueurs de qualité mondiale pour effectivement retrouver les faveurs de Santiago Bernabé. Et on sait qu'il est capable de redonner aux supporters du Real l'envie de continuer à rêver avec cette équipe.
Le surnom de Florentino Pérez, c'est Sepp Blatter en Espagne.
Eric, vous avez une petite question encore ?
Oui, José, pour revenir sur le terrain véritablement, après cette catastrophe, cette multiplication de catastrophes, comment vont pouvoir se relever les joueurs, l'équipe ? Est-ce qu'elle a les moyens de se relever véritablement ? Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'effondrement les semaines à venir ?
Alors, risque d'effondrement, d'abord, on va faire confiance à Sergio Ramos, qui n'était pas hier soir, parce qu'il était suspendu, vous vous souvenez.
Quelle erreur!
Du match aller.
Oui. Quelle faute! Hein.
Donc, il était suspendu, c'est un meneur d'hommes, c'est un homme qui dirige son vestiaire, mais effectivement, il y a des dossiers auxquels il va falloir trouver une solution. Pourquoi hier, Isco n'était même pas dans les 18 qui étaient convoqués face à l'Ajax? Pourquoi Mariano, qu'on a fait venir de France, n'était pas non plus convoqué? Pourquoi Marco Asensio n'est pas un titulaire quand on pensait qu'effectivement il devait être l'un des titulaires de ce nouveau Real Madrid? Et surtout, qu'est-ce qu'on fait avec Gareth Bale qui n'était pas parti parce que c'est Zidane qui est parti d'abord et Ronaldo, et donc on a décidé de le garder. Mais effectivement, aujourd'hui, le risque est de voir des joueurs comme Isco, Gareth Bale ou encore Marco Asensio faire défection à ce Real Madrid. Donc ça sera aux autres, même si cette équipe est fatiguée. On l'a constaté hier, notamment avec Toni Kroos, qui n'était pas du tout en forme, même si c'est l'un des trois joueurs qui ont réussi à courir plus de 10 kilomètres lors de ces matchs. Hein. Tous les autres joueurs du Real ont fait moins des 10 kilomètres. Donc imaginez quel est l'état des formes.
Sur les 10 kilomètres après l'adversaire,
c'est très fatigant. Oui. Donc justement, il va falloir faire confiance à Sergio Ramos et aux joueurs qui sont encore capables de tirer de ce Real Madrid, et notamment Modric, puisqu'il y a quelque chose qui est quand même assez étonnant. Hein. Vous avez un Real Madrid qui, il y a quelques semaines, vous disait, écoutez, voyez-vous cette équipe, une équipe qui a 8 candidats au Ballon d'Or. Aujourd'hui, cette équipe est à la ramasse. C'est la réalité.
Eh ben, on va s'arrêter là-dessus, malheureusement. Merci beaucoup, Juan José Dorado, d'avoir été en direct avec nous pour nous parler si bien des conséquences qu'il peut y avoir pour le Real Madrid. Et on suivra ça, bien sûr, à la loupe. À très bientôt dans notre studio, peut-être. Hasta prontito. Gracias. Bon, et puis alors, pour refermer cette soirée de Ligue des Champions, il faut noter cette qualification des Spurs, n'est-ce pas, hier soir. Les joueurs qui entourent Hugo Lloris, qui a été un grand capitaine et surtout un gardien des grands soirs hier, eh bien, ils se sont qualifiés grâce à un but de Harry Kane sur la pelouse de Dortmund. Et comme ils avaient gagné déjà 3-0 le match aller à Londres, eh bien, tout logiquement, les voilà donc les hommes de Pochettino, eux aussi qualifiés pour les quarts de finale. Et justement, il y a encore des places à prendre ce soir. On en parle tout de suite. Paris Saint-Germain, au pied de son rêve, on peut dire. Bonjour Olivier Pron.
Bonjour Madame Gasnier.
La route semble s'ouvrir pour le Paris Saint-Germain cette saison, sous la houlette de son nouvel entraîneur. Elle montre un nouvel état d'esprit, elle montre du talent et elle met, même sans ses stars, on commence à avoir confiance. Ce soir, Neymar, Cavani ne seront toujours pas là. On aurait envie de ne plus douter en évoquant ce match retour entre le PSG et Manchester United, parce que Eh bien, parce que quand même, il y a eu un match aller avec une jolie victoire, hein, 2-0, parce qu'aussi, il y a Mbappé, hein, qui peu à peu laisse éclater son talent, puis parce que, bien en face, il y a un Manchester United un peu handicapé, non, Olivier, avec deux buts de retard et des blessés.
Deux buts de retard, 9 blessés, un suspendu, Paul Pogba, il y a 3 blessés par ligne, ça n'est quand même pas rien. Ils sont venus à Paris avec 8 joueurs issus du centre de formation, parmi eux, 4 espoirs. Oui, alors, ils peuvent se baser sur l'exemple d'hier, mais il y a plein d'équipes qui peuvent se baser sur l'exemple de l'Ajax. On parlera de Lyon la semaine prochaine face à Barcelone, bien sûr. Mais c'est vrai que voilà, 8 jeunes joueurs issus du centre de formation, 4 espoirs, 3 qu'on connaît un peu mieux, un suspendu Paul Pogba, et ça n'est pas rien quand même. Quand on regarde le nombre de matchs en Ligue des Champions, le plus capé entre guillemets du côté de Manchester doit être à 40-45 matchs, quand on pense que du côté du Paris Saint-Germain, Thiago Silva en est à 70, Dani Alves 110, Gianluigi Buffon, qui, d'après les dernières informations, ne serait pas titulaire ce soir, contrairement à ce qui avait été annoncé. Il a quand même 121 matchs de Ligue des Champions. Ce sera sans doute Alphonse Areola, il en a beaucoup moins, mais enfin, il n'a pas moins de talent.
Et alors, ces joueurs de Manchester United s'autorisent quand même à rêver, n'est-ce pas?
Bah évidemment, il manquerait plus que ça.
De la bouche de leur entraîneur, Ole Gunnar Solskjaer. On a l'impression d'ailleurs qu'il a eu envie de mettre un peu le doigt dans la plaie et de rappeler des mauvais souvenirs aux Parisiens. L'entraîneur norvégien venu succéder à José Mourinho.
Bien sûr, tout le monde sait que nous pouvons le faire. Nous l'avons déjà fait. Et certains résultats en Ligue des Champions ces dernières saisons ont été non pas étranges, mais tenez par exemple, l'an passé, la Juventus Turin, battue 3-0 chez elle par le Real, menait bien 3-0 retour à Madrid après 60 minutes, avant bon d'être éliminé dans le temps additionnel. Et la saison d'avant, le PSG contre Barcelone, tout le monde s'en souvient. Il y a beaucoup d'exemples comme ça d'équipes qui ont inversé un résultat. Même nous, nous l'avons fait. Avec nos joueurs fantastiques, nous avons gagné à Chelsea, à Arsenal, à Tottenham. Cela nous donne la confiance pour le refaire.
Alors, il a appuyé là où ça fait mal, n'est-ce pas, Olivier? On va regarder.
Ouais, il y a plein d'exemples. Il part. Alors, évidemment, on a tous en tête la remontada. Ça,
oui,
c'est clair.
Ça, c'est n'importe quoi.
Enfin, en même temps, ça ne peut pas arriver.
Je ne me rappelle plus.
Ça pourrait peut-être arriver une deuxième fois, mais ce serait.
Eric, on fait encore des cauchemars parfois,
oui, bien
nous
sûr.
L'avoue.
Mais l'exemple sur lequel il revenait surtout, c'est. On l'a peut-être un peu vite oublié, c'est l'an passé, la Juve qui perd 3-0 chez elle contre le Real et qui, après 60 minutes de jeu au stade Santiago Bernabéu, menait 3-0 et n'est éliminée finalement qu'à la 97e minute sur un pénalty fort discutable à l'époque qui avait coûté cher à Buffon. Donc, bien sûr que tout est possible. Évidemment qu'il ne va pas dire le contraire.
Avoir oublié d'ailleurs ce genre de remontada d'ailleurs. Quand ils ont vu les jeunes à l'assaut des buts, là, on avait l'impression qu'ils étaient surpris. Eric, êtes-vous inquiet face à cette équipe de Manchester United? Pourquoi peut-elle y croire, selon vous?
Alors, elle peut y croire. Déjà, elle doit surtout jouer son jeu normalement et y croire. C'est obligatoire quand on est sportif et qu'on joue un match. On est obligé de croire en la victoire, sinon ça sert à rien de venir et de jouer le match. Donc là, c'est obligatoire. Maintenant, ça va être dur. C'est vrai que s'il y avait eu, là, on parle de toutes les situations. On parle d'une équipe qui est complète. Là, on parle d'une équipe aujourd'hui qui est très handicapée et qui va être dans la difficulté. En fait, le gros absent, comme on a dit tout à l'heure, c'était Pogba. Parce que la relation Rashford-Pogba, c'est la force de Manchester. Et en fait, là, le fait de pas avoir Pogba, c'est vraiment, ça coupe tout, hein. Alors.
Ils ont Mbappé quand même, peut-être, Naïm.
Voilà, au match aller, on a vu la performance.
Il y a eu quelques petites comparaisons, peut-être osées entre ces deux jeunes.
Il y avait aussi des comparaisons entre Mbappé et Asensio à une époque. Hein. Bon,
mm-hmm.
Vous
dites ça après le match hier soir.
Évidemment qu'il y a trop de jurisprudence dans le foot moderne pour qu'on dise Paris va se qualifier. Puis on connaît Paris, Eric le rappelait tout à l'heure, c'est dans l'ADN du club de faire des trucs assez incroyables. Après, il faudrait quand même vraiment être de mauvaise volonté pour se faire éliminer ce soir. D'abord parce que non seulement dans le jeu, il y a beaucoup plus de talent à Paris, il y a un effectif beaucoup plus fourni, puis il faut quand même mettre quelque chose au crédit de Thomas Tuchel, c'est qu'il a réussi psychologiquement à fédérer quelque chose, à instaurer un état d'esprit, là où sur les années précédentes, on se reposait exclusivement sur le talent et où on voyait bien que ça marchait pas. Là, en termes d'état d'esprit, de solidarité, d'esprit de guerrier dans la manière d'aborder les matchs, on l'a vu sur le match retour contre Liverpool, on l'a vu sur le match aller contre Manchester United, même si le niveau de Manchester était pas terrible par rapport au Barça au Real les années précédentes. Ça, c'est aussi un acquis du PSG cette saison. Et puis donc voilà, moi j'ai confiance en eux.
Et puis tu joues à Paris aussi, donc à Paris c'est jamais pareil que quand tu joues à l'extérieur.
On rappelle juste qu'il y a à peu près 330-340 précédentes depuis presque 40 ans, 81-82. Ouais. Donc des victoires 2-0 à l'extérieur. Et il y a pour Manchester 3% de chance de se qualifier. Ouais. C'est juste
mais
pour
Olivier,
la stat.
Hier rapport. Pour l'Ajax, ouais. C'était 7%.
Mais, et ben là, c'est deux fois moins.
Mais après dire que Paris va passer, ça veut pas dire qu'ils vont leur mettre 7-0, que ça va être une boucherie.
Ah, sûrement pas.
Du tout. Ah non, mais tu vois. Mais il faut quand même relativiser les choses. Il y a un tel gap. Il y avait déjà un tel gap au match aller avec les forces en présence. Mais là, quand vous écoutez la mais liste
pour
de
pour qu'il y ait un peu de suspense, il faudrait juste que Manchester marque en premier.
Eh ben justement, écoutons Thomas Tuchel qui finalement fait un peu le tour des solutions possibles. Et évidemment, il a dû la faire avec ses joueurs.
C'est la clé pour moi qu'on a confiance, mais pas trop de confiance. Que nous sommes attentifs, mais nous jouons pas avec peur. Que nous sommes avec nous et que nous avons confiance en notre qualité. Toutes les choses peuvent arriver. C'est toujours possible qu'une équipe que Manchester, dans une 8e finale, il marque un premier but, ok. On doit être prêt pour ça. On doit être prêt pour montrer une réaction si les choses sont comme ça. Peut-être c'est un match très, très serré. Je ne sais pas. Et on ne peut pas perdre notre énergie de réfléchir beaucoup de toutes les possibilités. C'est nécessaire que nous sommes préparés pour montrer une réaction à tous les scénarios qui sont possibles. Ça, c'est le défi.
Voilà, prêt à tous les scénarios.
Juste pour
même une
se replonger dans le passé, mais Thomas Tuchel, il est à Paris depuis 6 mois. C'est un plaisir de l'avoir en conférence de presse.
Franchement, c'est vrai.
Il est de plus en plus fluent, comme on dit. Il parle de mieux en mieux le français.
Et
il fait même
de
des
bois.
Tics de langage. Il a même des intonations maintenant. On
il
a l'impression qu'il a depuis des années.
Il plaisante.
Je voudrais pas jeter la pierre à Unai Emery ou à d'autres.
Bah non, enfin, surtout pas.
Hein, surtout pas. Mais voilà, que d'efforts et ça joue.
Mais même Leonardo
Jardim, c'est hyper important.
C'est important.
Olivier, même Leonardo Jardim a réussi à parler français.
Mais Tuchel est bien meilleur que Jardim.
Marquinhos commence à parler mieux que nous autres français. Il a un vocabulaire de plus en plus enrichi.
Bon, enfin voilà, on sent bien en tout cas. Tourelle finir, on est prêt à tous les scénarios. Ça veut bien dire ce que ça veut dire.
Pour revenir à ce que disait Eric, il va falloir que Manchester joue son jeu. Le problème, c'est qu'on ne connaît pas le jeu de Manchester. Ils ont tellement ces derniers temps, ils ont tellement navigué. Ils ont tellement navigué à vue que là, ce soir, il faut un bloc avec un vrai projet de jeu. Ils l'ont pas.
Le jeu de Manchester, on le connaît, Sheriff. C'est quand Paul Bac ballon, j'allonge le jeu.
C'est
sur
ça. Voilà. Et même à l'aller, ça avait pas marché parce qu'il a été neutralisé et donc il a pas pu trouver les attaquants. Mais il reste un espoir. C'est s'il reste un peu d'ADN, d'anglitude, dans l'esprit de Manchester United, c'est-à-dire qu'ils jouent à l'anglaise, là qu'ils les prennent à la gorge,
et qu'ils balancent. C'est vrai, t'as raison, parce que t'as quand même une ligne d'attaquants qui est quand même intéressante.
Tu vas pas jouer à terre, tu vas construire, tu vas faire tourner le ballon, non, tu le rentres dedans. S'il reste un peu d'esprit anglais, et là, mais bon.
Alors, les forces de Paris, évidemment. Il y en a, et on pense tous à Mbappé, mais il y en a une autre quand même aussi qui, ces derniers temps, et Tuchel s'était appuyé dessus dès le début, c'est évidemment Angel Di Maria.
Ouais, bien sûr. C'est Di Maria, il est transformé par, Tuchel a transformé Di Maria parce que il l'a intégré dans ce trio dès le début. Mais dès le départ. Et en fait, Di Maria s'est senti valorisé par rapport à ça. Et il s'est dit, je suis à la même hauteur que les trois qu'on parle tout le temps pour Paris. Donc, il s'est dit, voilà, je fais partie de ces trois joueurs qui sont importants. Je deviens un joueur important, même si il le pensait lui personnellement, mais pas tout le monde. Et du coup, il est en train de faire des performances. En plus, il y a le match de Manchester qui accélère un peu ça, c'est-à-dire que là, il a envie de montrer à tout le monde que voilà. Ouais. Donc, sincèrement, je pense que
faut pas oublier que si t'as pas Di Maria au match aller contre Naples, t'as pas de Ligue des
Champions.
Bien sûr.
Dans son malheur, Tuchel, il a perdu trois joueurs, mais il en a regagné un, l'essentiel, enfin pour toute cette séquence.
Deux, parce que tu peux mettre Mbappé qui est aussi décisif avec Di Maria.
C'est surtout qu'il a pas perdu Verratti. Et là, il y a Verratti là. C'est plus du tout le même PSG. Donc voilà.
Et le
il a perdu Neymar, il a perdu Cavani, c'est une grosse perte. Bon, il va peut-être les retrouver.
Mais il a trouvé une équipe aussi. Il a trouvé un groupe.
Un état d'esprit.
Le point d'équilibre, c'est Verratti. Donc, tout est...
Juste un mot, hein. Une dernière stat, 23 matchs à domicile en Ligue des Champions pour Paris. Il y a eu seulement deux défaites, c'était contre Barcelone et le Real. Une seule par deux buts d'écart, c'est qui concerne le match d'aujourd'hui pour la qualif. Donc vraiment,
on
encore
sera
une
sûr
fois,
comme on peut, on a peur.
Bon. Non, pas vraiment.
Est-ce que je peux rapidement, Annie, passer un petit coucou à Boukariouba, un auditeur guinéen qui nous écoute tout le temps, qui salue l'équipe, donc on l'embrasse bien fort.
On le salue aussi. Il est du côté de Conakry, c'est ça. Et pour terminer, allez, je vous emmène faire un petit tour au pays du carnaval.
On va aller voir Neymar.
Alors justement, celui-là, eh bien, c'est le carnaval de Rio, parce que Neymar était mardi soir au Sambodromo, lundi soir, comme on dit, là-bas, au défilé du carnaval. Il était aussi juste avant celui de Salvador de Bahia, où on l'a vu légèrement se trémousser sans bouger son pied. Eh bien, ce soir, Olivier, vous pourrez prendre vos jumelles, il sera en tribune. Il est arrivé ce matin à Paris.
J'espère qu'il sera à l'écoute des RFI pour que Frédéric Suto et moi, on lui montre un peu ce que c'est que de commenter un match façon française.
Il sera dans le stade ce soir avec vous, il regardera le match. Le match sera donc retransmis.
On le saluera de votre part alors.
Sur RFI, bah oui, tout obéi, vous lui demandez.
Un petit selfie.
Et puis Frédéric Suto, donc vous, Olivier, Frédéric Suto, 20h55, heure de Paris, 19h55, TU. Merci beaucoup à tous. Merci à David Finzel qui m'a aidé, comme chaque jour, à préparer l'émission. Laurent Salerno était à la réalisation et on vous dit à demain. Peut-être que quand même, on aura un autre coup de semonce.